Eh bien aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole à Thierry qui, comme beaucoup de parents après une séparation, se bat aujourd'hui pour avoir un lien avec ses enfants entre démarches, décisions difficiles à accepter et sentiments d'injustice. Il raconte un parcours marqué par la distance et les obstacles, mais aussi par une volonté intacte de rester présent dans leur vie.
Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous parler de ta situation familiale ?
Oui, bonjour, écoute, merci de m'entendre. Ma situation familiale, aujourd'hui, je suis célibataire après 30 ans de vie commune. Donc moi, j'ai eu une séparation en 2019, donc après 13 années de mariage. J'ai trois enfants, aujourd'hui, ils sont grands, j'ai deux enfants majeurs et une qui est encore mineure. Donc 7 ans après, je suis capable de parler un petit peu de ma situation. J'ai réussi à éclaircir dans ma tête ce qui s'est passé, un peu le rouleau compresseur que j'ai eu. Mais c'est effectivement, je veux parler un petit peu de cette situation parce que je suis confronté à beaucoup de parents qui vivent un peu les mêmes choses. Il y a des recoupements qui peuvent se faire et puis de pouvoir exposer assez objectivement cette situation-là.
Donc comment s'est passée la séparation ?
Très très mal. Vraiment, alors moi, j'étais dans une démarche plutôt amiable. Je comprenais que peut-être qu'il y avait plus d'amour après toutes ces années, que j'avais pas peut-être suffisamment mis de piment, etc. C'est jamais facile d'éduquer trois enfants, disons que moi, j'ai été mis à la porte du jour au lendemain avec mon baluchon. J'étais délogé de ma maison avec un empêchement de voir mes trois enfants et aussi mon chien. Donc c'était vraiment très difficile. C'est un peu une double, voire une triple peine perdre son conjoint et puis surtout de plus voir ses enfants parce que je vois pas pour quel motif, en fait, en tant que... j'ai peut-être pas été un excellent mari, mais j'ai été un bon père, c'est assez difficile à accepter, à vivre.
Et aujourd'hui, quelle est ta relation avec tes enfants ? T'arrives à les voir ?
Plus du tout aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Il y a eu une période quand même où j'ai pu passer encore des très bons moments, renouer un lien avec eux. Je pensais vraiment que c'était gagné parce que la séparation a certes été difficile. Après j'ai dû me reconstruire, me reloger, déménager. Puis aujourd'hui, j'ai éventuellement un petit peu d'échange SMS, mais très bref. Et c'est également une incompréhension parce que à chaque fois qu'on a pu se voir sur des temps limités, à maximum une semaine, que ce soit dans ma nouvelle région, là, en Bretagne, ou bien dans le centre de la France, où j'étais aussi à un moment. Mes enfants sont venus me voir et puis ont apprécié ces moments de vacances partagées et puis de revivre des temps sans surveillance, en gros, de l'ex-famille, quoi. Et puis, c'était assez sain. Mais des choses ont été dites, inventées, imaginées pour saper un peu ce travail qui me tenait à cœur de vivre des bons moments avec mes enfants comme je l'ai toujours fait par le passé. Et c'est très décevant en fait. Je pensais qu'en ayant atteint la majorité, ils auraient plus envie de me voir. Et puis c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est-à-dire que je peux comprendre, ils ont leurs copains, copines, les études avec des périodes difficiles, le brevet, le bac, le licence, master, tout ça, mais quand même, moi qui envoie beaucoup de cartes postales, de cadeaux, qui est toujours présent pour les anniversaires, les fêtes, soit Noël, Pâques, de pas avoir de réponse, c'est vraiment pas facile à vivre en fait.
Ah, ça fait longtemps que tu les as pas vus du coup alors.
Alors ça va faire un an et disons qu'en les voir 15 jours en 3 ans, c'est pas très satisfaisant, quoi. Ça, c'était les dernières années depuis que j'ai décidé de suivre une mutation professionnelle à l'autre bout de la France, puisque ma famille est à Strasbourg. Mais comme la séparation était en 2019, les années 2020 à 2022, j'avais un droit de visite qui a jamais été pu être exercé dans de bonnes conditions. Et même là, même si on aurait pu faire des cinémas ou des sorties dans des parcs, etc., j'en ai été empêché. Je devais avoir un tiers de confiance, des gens très proches, de la famille, des parrains, des marraines, des cousins, qui auraient pu faciliter l'échange et tout ça. En fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. C'est vraiment toujours porte close. Et puis, j'étais rayé de leur vie, quoi, en fait, tout simplement, par la maman notamment, et puis tout l'entourage, c'est surtout ça aussi qui a cautionné ce départ, enfin, indigeste.
Donc tu parles d'un droit de visite, donc ça signifie que vous êtes passé devant un tribunal, que la justice a rendu un verdict, donc tu avais un droit de visite et la maman t'empêchait d'en jouer correctement, c'est ça?
Alors je suis passé devant le juge aux affaires familiales dans un premier temps, donc j'ai eu un droit de visite pour ma plus jeune fille, et les deux grands ont le droit en fait de me voir sans contrainte, et non, ça ne s'est pas fait. Alors j'ai saisi le juge des enfants, ça n'a rien changé, mon procès allait jusqu'en appel, puis on a entériné les décisions non seulement de première instance, mais les mesures provisoires en fait qui ont été avalisées dans le temps, sans considération des preuves, des choses de fond. Et déjà rien que 15 jours sur un droit de visite classique, c'est déjà pas beaucoup, mais si en plus, j'ai fait des plaintes pour non-présentation d'enfants, qui sont entendues, hein, qui sont consignées, mais il y a une impuissance, en fait, un peu judiciaire pour contraindre, parce que, quand on dit l'enfant, on veut pas, alors, sachant qu'il est plus ou moins aliéné, on peut pas lutter, en fait, tout simplement.
Donc, expérience plutôt négative de la justice, du fonctionnement des institutions en général, ou juste de la justice?
C'est terrible, c'est paradoxal, parce que moi-même, je suis quelqu'un qui a donné un peu ma vie à la justice pendant une dizaine d'années, l'autre côté du prétoire, on va dire, dans d'autres domaines, j'ai assez cru dans les décisions que je pouvais prendre en droit social, mais là, au niveau de la justice aux affaires familiales, non, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Alors, je sais pas les juges sont pieds et mains liés par rapport à une jurisprudence ou il y a une loi qui existe, qui n'est pas appliquée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des défenseurs de la proposition de loi pour une garde alternée, pour une éducation en équité.
Ouais, c'est la PPL 819.
Voilà, c'est bien ça. Donc ça progresse en termes de signataires, mais après en termes de vote, de nouveaux projets de loi entérinés, mais on fait avec l'existant. Mais oui, j'ai œuvré dans plusieurs associations, et puis le constat est toujours le même, c'est que le système judiciaire est complètement à revoir, c'est une refonte qui est attendue. Là, c'est vraiment sans négocier, il faut faire table rase et puis créer autre chose qui corresponde à la société, parce que le monde va mal. Les justiciables sont en souffrance, c'est une certitude.
Justement, tu parlais donc de la PPL 819. Est-ce que c'est quelque chose qui te donne de l'espoir, ou est-ce que tu penses que ce sera une énième loi qui ne sera probablement pas appliquée?
Alors, ça me donne beaucoup d'espoir parce qu'effectivement, ça changerait la mentalité déjà. C'est-à-dire qu'en cas de séparation, que la première disposition qui peut être mise en place, ce serait justement une garde équitable, et donc pour les droits de l'enfant, pour préserver son éducation, tout ça, ce serait une chose formidable. Ça peut prévoir des cas d'exception en cas de violence, de différents cas, effectivement, qui ne permettraient pas cette garde si l'un des deux parents ne veut pas l'exercer. C'est pareil, on peut pas contraindre. Mais que le juge, au lieu de se dire on est à minima, on laisse l'enfant chez, c'est principalement la mère, mais ça peut aussi être le père. C'est sur 15 jours, comme je le disais, juste quelques heures, un samedi, on ne peut pas s'occuper de son enfant, c'est impossible. Donc oui, c'est un espoir, c'est quelque chose que j'attends, qui pourrait nous faire aller dans une dynamique plus intelligente.
Et donc dans tout ce parcours judiciaire et administratif suite à cette séparation, qu'est-ce qui t'a le plus marqué?
Dans le parcours, ce qui m'a marqué, c'est effectivement, par exemple, quand je vais devant un juge des enfants, que je signale qu'il y a quand même des choses qui mettent en danger l'enfant, qu'on me demande de m'expliquer comme si j'étais un auteur, de pas être considéré du tout en tant que victime, en fait. Devant le juge des affaires familiales, c'est très rapide la procédure. Alors, mon avocat me dit « Ah, vous avez de la chance, il a pris le temps pour vous, il vous a quand même consacré 20 minutes, d'habitude c'est beaucoup plus rapide. » Je sais pas, ils ont eu des vies entre leurs mains, et donc de passer un quart d'heure, une demi-heure, et de décider, parce qu'ils n'ont pas une boule de cristal, c'est-à-dire que quand c'est contentieux, quand réellement c'est contentieux, c'est des griefs qui sont posés de part et d'autre. Comment ils peuvent décider? Alors, on dit toujours que c'est en fonction de l'intérêt de l'enfant, mais on voit bien au final que non, ce n'est pas l'intérêt de l'enfant d'être privé d'un parent, en fait. c'est inadmissible, tout simplement. Donc ça, ça me marque vraiment, oui.
Et comment tu vis, justement, cette situation au quotidien ?
Alors, aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul, parce que, bon, voilà, face à cette impuissance qu'on a, et puis, je pense qu'avoir tout fait auparavant, déjà financièrement, c'est énorme. De se rendre compte que, malgré tous les efforts qu'on fait, on peut pas lutter, quoi. Donc, moi, j'ai des très bons souvenirs avec mes enfants, mais le lien s'étant dissipé, la distance, tout ça, c'est... Ça ne permet pas de vivre une vie de famille, en fait. Hein. Alors, les familles recomposées, ça existe, mais là, en l'espèce, non. C'est vraiment... j'essaye, moi, de vivre pour moi, et puis d'être un homme droit, de continuer à donner des nouvelles de temps en temps. Mais voilà, c'est comme une relation de couple, une relation de parents-enfants, ça doit se vivre à plusieurs. Et puis, quand on est seul à vouloir le bien, et qu'on fasse... les gens font tout le contraire. Alors, j'en veux pas à mes enfants, hein, parce que voilà, ils sont pas responsables, ils ont dû suivre la machine, quoi. Mais c'est triste, c'est vraiment triste. Hein,
et est-ce que tout ça a eu aussi un impact, je sais pas, sur ta vie professionnelle, psychologique, par exemple ?
Oui, entièrement. J'ai fait deux dépressions, hein, voilà. Donc une première, suite à la séparation, parce que voilà, je m'y attendais pas du tout. Donc j'ai mis deux trois mois à pouvoir retourner travailler. Alors comme je suis sportif, voilà, ça m'a beaucoup aidé en termes de résilience et puis de combat, psychologique, plutôt que des médicaments ou des addictions. Mais je suis allé un peu trop vite et puis de voir que mes enfants, j'allais plus pouvoir être avec eux. J'ai fait une rechute assez sévère et du coup, il y a eu des antidépresseurs, etc. Donc aujourd'hui, c'est loin derrière moi, hein, mais j'oublie pas par quoi je suis passé, ce qu'on m'a infligé. Donc c'est assez terrible. Ouais.
Est-ce que tu te sens quand même un petit peu soutenu, c'est pas par de la famille, des amis, des associations, des collectifs ?
Alors par la famille, absolument pas. C'est tout le contraire, en fait. Hein. C'est les gens sur qui je pensais le plus compter m'ont tourné le dos. Je leur en veux beaucoup. Par rapport à des amis auxquels, d'ailleurs, je ne m'attendais pas spécialement, c'est eux qui ont été le plus présents. Que ce soit en Alsace ou en Bretagne, je suis quand même bien entouré. Alors, pas en nombre, hein, mais en qualité, qualitativement, des personnes très humaines, des personnes qui ont su me remonter le moral et puis comprendre aussi la situation, me donner des conseils. Après, en termes d'associations, oui, il y en a énormément. Alors, je veux pas forcément les citer, hein, sauf si on me demande, mais
n'hésite pas.
Ah oui, il y a Balance ton Jaf, il y a Père en colère, SOS Papa, Papa en colère, Papa Frère en colère. Il y a également le mouvement citoyen Parents Action qui est assez fédérateur, qui essaie de réunir en fait tous ces gens qui défendent une cause presque perdue, mais je veux dire avec l'unité de pouvoir aller plus loin. Il y a eu aussi un collectif qui plante un arbre de façon symbolique pour chaque parent privé d'un enfant, un autre qui peint des galets aussi avec le nom de l'enfant et puis qui fait des vidéos, etc. Donc c'est des gens qui marchent aussi des kilomètres pour l'égalité parentale ou voilà. Donc je trouve que c'est des initiatives qui sont vraiment formidables. Et c'est pas du virtuel, hein, c'est du réel. C'est des gens qui vont sur le terrain pour sensibiliser et puis aussi essayer de faire changer les choses. Donc moi je soutiens tout le monde en fait. Hein. Je discrimine personne, bien au contraire. Et puis voilà, si je vois qu'il y a des parents qui sont dans la difficulté, un peu comme je l'ai été au début, qui sont vraiment dans les affres judiciaires, de leur donner des conseils juridiques, je suis assez bien passé pour ça, ou de les orienter vers des cellules de soutien psychologiques ou avec les pères, des dialogues en fait qui peuvent se faire à distance, hein, par des outils modernes, hein, qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, pour ne pas être seul et puis partager non seulement sa souffrance, mais aussi trouver des solutions ensemble.
Selon toi, quel impact être séparé comme ça d'un de ses deux parents le plus clair du temps peut avoir sur le cerveau d'un enfant?
Alors je pense que c'est inconscient, parce que bon, l'enfant, il poursuit ses études, il a toujours un repère maternel, et puis si c'est pas paternel, il a un repère masculin qui lui permet quand même d'évoluer, mais il y a toujours ce manque. enfin moi personnellement j'ai retrouvé mon papa des années après aussi. Alors je sais pas si il y a effectivement des phénomènes de reproduction, des schémas et tout ça, bon, mais en tout cas c'est clair qu'on est impacté, qu'on est touché, parce que voilà, on a un référentiel, on réagit face à des situations problématiques, voilà, avec les armes qu'on a, et quand on a été démuni en tant qu'enfant, il est certain qu'on risque de reproduire des choses. Bah, je vois par exemple mon ex-femme, elle aussi de son côté, privée de son papa. Après, voilà, elle a pu aussi reporter les choses sur moi en considérant mon rôle de père comme défaillant par rapport à une histoire qu'elle aurait vécue. Enfin, voilà, donc c'est, tout ça, c'est des choses effectivement psychologiquement compliquées. Il y a eu des études sur le cerveau, mais peut-être pas aussi poussées sur des phénomènes, je sais pas, de manipulation, de perversion narcissique, d'aliénation parentale, qui est quelque chose qui n'est pas reconnu réellement en France, mais qui existe dans d'autres pays, et qui donc, voilà, donc mérite à étudier de manière plus approfondie, parce qu'il y a des dégâts immenses sur les enfants, ça c'est sûr et certain, et malheureusement, à l'âge adulte, ils vont en payer le prix fort.
Alors justement, selon toi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le système actuel, et qu'est-ce que tu aimerais voir changer concrètement ?
Alors dans le système actuel, bon, c'est déjà les lenteurs de la justice, et puis après quand on passe en procédure, ça va trop vite. Donc il y a pas d'écoute réelle on décortique pas l'histoire familiale, on n'essaye pas de comprendre pourquoi un parent a été éloigné, pourquoi il y a eu de la diffamation, il y a eu de la victimisation, pourquoi est-ce qu'on on a dénigré en fait l'autre, voilà, pourquoi l'enfant il tient un discours ambivalent. Voilà, des fois il se déclare penseur indépendant, une autre fois il est frontalement opposé, mais enfin voilà, rien que de questionner par un professionnel l'enfant, on comprendra très vite qu'il y a des incohérences en fait. Voilà, il peut y dire j'étais là, j'ai tout vu. Alors, mais qu'est-ce que t'as vu ? Et enfin, du coup, il a rien vu, quoi. C'est ce qu'on lui a dit. Et qu'est-ce que tu lui reproches ? En fait, il n'y a pas de grief, quoi. C'est-à-dire qu'il peut haïr un de ses parents, mais il ne sait pas pourquoi. Donc, je veux dire, quand on en est là, je pense qu'il y a besoin d'écoute psychologique ou même psychiatrique à un moment donné, hein, que ce soit du parent ou de l'enfant. Voilà, c'est des aides qui ne sont pas prévues dans le système judiciaire. On tranche et on résout tout ça en argent, en fait. On dit, voilà, il y aura une pension alimentaire, et ça s'arrête là. Voilà, la pension alimentaire, quelque part, même si elle peut aider effectivement à l'éducation de l'enfant, elle reste contestable dans les cas où le parent ne voit pas son enfant. Parce qu'en fait, il devient un payeur et il est privé de son statut de père ou de mère. Donc ça, c'est à changer impérativement. Alors, et même, on crée un dysfonctionnement, parce que, je veux dire, si le parent accepte aujourd'hui une garde alternée, ben du coup, il risquerait de ne pas avoir les aides sociales, il risquerait de ne pas avoir une pension alimentaire. Donc, en fait, on biaise tout, quoi.
Quel message tu voudrais faire passer aux autres parents qui éventuellement nous écoutent et sont ta situation ?
Alors, le temps fera les choses, ça c'est sûr et certain. Alors, être combatif, c'est important vis-à-vis de, justement des instances qui nous meurtrissent. Mais par rapport à ces enfants, il faut être très patient parce qu'ils sont en construction et indéniablement, à un moment, ils reviennent vers le parent qui est privé de les voir. Et je pense qu'il faut être fort, il faut être prêt à ce moment-là, il peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas sombrer, il faut essayer de s'investir dans des choses ou des passions ou dans le travail, mais pas de manière insensée, mais de trouver un équilibre. Et puis de se dire quand mes enfants vont venir, ils pourront voir quelqu'un qui est resté droit, qui vit correctement, qui vit bien malgré qu'on lui ait gâché une bonne partie de son existence et de sa relation avec ses enfants. Mais je pense que c'est ça. Il faut voir, être un petit peu futuriste et puis rester objectif, optimiste, malgré tout ce qui se passe.
Quel message t'aimerais adresser aux décideurs politiques et aux éventuels membres de la justice qui nous écoutent ?
Ce serait effectivement de mettre sur le tapis une réforme de la justice, notamment familiale, de considérer les victimes autrement. Et puis, c'est un vrai enjeu social, parce que tous les phénomènes de délinquance, de maltraitance, ils découlent en fait de ça. Hein. C'est-à-dire que tous les milliers d'enfants qui vivent dans une des familles pas forcément recomposées, mais enfin voilà, avec un papa solo ou une maman solo, c'est maintenant ça peut pas construire notre avenir et puis la société est en déroute tout simplement à cause de ça.
Qu'est-ce qui te donne encore de l'espoir aujourd'hui?
Ce sont les associations qui sont très humaines, qui passent des temps bénévoles la plupart du temps, et puis que pour se regrouper, ce sont des citoyens qui sont loyaux en fait et qui s'unissent ensemble pour pas forcément être contre les défaillances du système et tout, mais essayer de trouver des solutions. Et ils sont force de proposition. Et puis pour les avoir fréquentés là, pendant 6 ans, je trouve que il faudrait même peut-être des soutiens financiers. Je sais pas, mais il y a des associations but lucratif et puis certaines qui sont là qui servent pas forcément. Des sujets aussi importants, je pense, mais après je dénigre personne, mais je pense que il faudrait favoriser ces associations, ces mouvements qui essayent d'inverser la tendance et qui sont quand même très visibles, si on cherche un petit peu, on les trouve à travers les réseaux et tout ça, et puis leur donner une place médiatique en fait. D'ailleurs c'est le fait de le passer à la radio, c'en est une, mais il y a aussi des télés, il y a des films aussi de sensibilisation. Parce que tu m'appartiens, par exemple, c'est un film, comment je suis tombé dessus, je trouve ça, c'est quand on voit ce film, on se dit, on comprend ce qu'on a vécu en fait, sauf qu'on est dans le brouillard, on comprend pas, mais il y a des films, il y a des livres, il y a beaucoup de choses qui existent, mais qui mériteraient d'être mis en avant, par exemple à la télévision, à des heures d'audience intelligentes en fait, plutôt que tard le soir ou pas du tout.
Et si jamais tes enfants entendaient cette émission, tu aurais quoi à leur dire ?
Tout simplement que je les aime en fait. Ça n'a jamais cessé dans mon esprit, et puis même s'ils ont 18 ans, moi j'étais père pendant 18 ans. Eux, ils ont connu un père de manière assez rétrécie, par rapport à tout ce qu'ils ont eu pendant leur jeune âge, que j'ai pu leur donner, et puis les chérir. Et quand ils sont jeunes, on oublie. Enfin, je sais pas, moi j'ai 25 000 photos à travers une centaine d'albums. Il y a que des sourires, de la joie. Et puis tout ça a été effacé, un peu comme 1984 de George Orwell. Tout ce qui s'est passé n'a jamais existé. Et donc c'est dommage parce que il suffirait de se replonger dans ces petits films VHS ou bien dans ces photos pour voir qu'en fait tout ce qui a été raconté n'a jamais existé. C'est que des moments de bonheur partagé, alors que des parents se séparent, se déchirent aussi malheureusement, par exemple en l'intelligence de s'entendre, à l'amiable pour le bien des enfants. C'est pas leur histoire, et donc ils ont peut-être dû se positionner malgré eux, mais la logique, elle est incontestable. Ils ont un père et une mère à vie, et il faut pas qu'ils soient sacrifiés eux, et qu'ils ne sacrifient pas leurs parents qui les aiment, parce que je pense que c'est de l'amour inconditionnel de part et d'autre. Donc après, on n'a qu'une vie, et ce serait important de renouer des liens au plus tôt, parce que c'est le temps passe, et c'est dommage, en fait.
Très bien, parfait, merci Thierry.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Merci à Thierry pour ce témoignage sincère et essentiel à travers son histoire. C'est une réalité encore trop peu entendue qui s'exprime, celle de parents qui luttent pour ne pas disparaître du quotidien de leurs enfants.